Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez d'échanger avec vous. Ma première question, elle est toute simple. Vous êtes qui, Madame Messis?
Enfin, toute simple, ça c'est vous qui le dites. Qui je suis? Je m'appelle Sophie Messis, comme vous l'avez dit. Nous sommes à Carthage, dans une maison qui appartient à ma sœur et à moi, et à ma mère, que nous avons construite en 1981. Et si je le dis, c'est que ce n'est pas innocent. Donc vous savez que j'appartiens à la minorité juive de Tunisie. J'ai vécu en Tunisie sans discontinuer jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite de quoi, mon père, ayant eu quelques problèmes avec l'État tunisien, nous sommes partis, mon père a travaillé à la FAO, nous sommes partis en Afrique subsaharienne où j'ai fait 2 ans de scolarité au Cameroun.
C'était quel
1962-64. Voilà, donc j'ai fait 2 ans de scolarité au Cameroun, ensuite une partie de ma classe terminale en Éthiopie à Addis Abeba, ce qui est très important parce que ça a déterminé une partie de ma vie, cette prise de connaissance avec l'Afrique subsaharienne que je n'ai jamais quittée vraiment par la suite. Nous avons toujours vécu entre la Tunisie et un ailleurs qui a pu changer. Voilà, qui a pu changer. J'ai passé mon bac en Tunisie, au lycée Carnot. Après ce séjour en Afrique subsaharienne, ensuite j'ai fait des études à Paris, des études d'histoire. Après l'agrégation que j'ai obtenue en 1972, j'ai essayé de rentrer en Tunisie, car pour moi la Tunisie était mon pays, je n'en avais pas d'autre à l'époque, hein. Je n'avais même pas une double nationalité que j'ai maintenant, j'étais exclusivement tunisienne, comme mes parents, mais malheureusement la Tunisie, j'ai fait demande 3 ans de suite, n'a jamais jugé utile de me donner un poste dans l'enseignement tunisien. Raison pour laquelle, eh bien, je n'ai jamais enseigné en Tunisie, on m'a toujours refusé un poste. Et je suis reparti en Afrique subsaharienne, parce que j'avais fait ma maîtrise d'histoire avant l'agrégation sur l'Afrique subsaharienne, en fait, qui a été, comme je vous le dis, un élément extrêmement important de mon itinéraire et de ma trajectoire, aussi bien personnelle que professionnelle. Et donc, je suis retourné au Cameroun et j'ai enseigné à Yaoundé de 1973 à 1975, en partie au lycée Leclerc et en partie à l'université de Yaoundé, département d'histoire. Ensuite de quoi, au bout de ces 2 ans de séjour camerounais, on m'a proposé en France un poste de journaliste C'était quelqu'un d'assez original, si je puis dire, Michel de Breteuil, qui possédait une série de journaux spécialisés dans l'Afrique subsaharienne, qui était une sorte de petit empire de presse, hein, qui était une espèce de reliquat de la colonisation, si l'on peut dire, puisque cet empire de presse avait été fondé par son père, qui avait créé la plupart des quotidiens d'Afrique francophone. Et donc, j'ai d'abord créé avec lui un magazine sur les femmes du Maghreb qui n'a pas duré très longtemps, et ensuite de quoi, pendant quelques années, j'ai travaillé dans un mensuel, enfin je dirigeais ce mensuel, je faisais tout en fait, de la rédaction en chef au secrétariat, qui s'appelait Afrique Agriculture et qui m'a permis de sillonner l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale dans tous les sens, mais d'apprendre et de connaître le monde rural, à la fois nord-africain et subsaharien, puisque je travaillais sur les deux parties du continent. C'était un journal très technique, hein, au bout de quelques années, j'en ai eu un peu marre de faire la technique, mais j'avais appris énormément de choses, À tel point d'ailleurs qu'à l'époque, je n'étais pas considérée comme une historienne, mais comme une économiste ruraliste. Voilà. Et en quittant ce journal, j'ai écrit mon premier livre, qui s'appelle « L'arme alimentaire ». J'avais accumulé une énorme somme de connaissances sur à la fois la ruralité africaine et les rapports de force agricoles mondiaux, en fait. Et j'ai éprouvé le besoin d'écrire après cet apprentissage très enrichissant, mais qui était, comme je vous le dis, dans un journal qui n'était pas un journal d'opinion, si vous voulez, du tout. Et donc j'ai écrit ce bouquin, L'arme alimentaire, qui a été publié en 1978, septembre 78, chez Maspero. À l'époque, Maspero, les éditions Maspero existaient encore. Et après avoir écrit ce bouquin, je suis entré à Jeune Afrique comme journaliste.
D'accord. Ce livre-là, L'arme alimentaire, c'est comme ça, c'est grâce à ce livre que je vous connais.
D'accord.
Parce que j'étais étudiant à l'université et je l'ai découvert à ce moment-là dans le cadre de mes études d'université. Et maintenant, je travaille sur les questions alimentaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser? Vous l'expliquez dans les premières pages.
Tout à fait.
Vous connaissez l'agriculture, l'Afrique du subsaharienne, l'Afrique du Nord, qui est la
absolument.
Pour les seules questions rurales. Peut-être pour quelqu'un qui a ce premier profil-là, un livre sur l'agriculture africaine, ça aurait...
En fait, ce n'est pas un bouquin sur l'agriculture africaine. Bien sûr que je parle de l'agriculture, pas seulement africaine, mais mondiale.
Je sais que vous auriez pu faire un livre sur l'Afrique.
Mais ça ne m'intéressait pas.
Ouais.
Je ne suis pas une agronome.
D'accord.
Je ne suis pas... ma formation d'historienne m'a amené à être politiste aussi, d'une certaine façon. Et en travaillant toutes ces années-là sur les questions agricoles mondiales, eh bien, j'ai découvert l'intensité des rapports de force dans l'agriculture. Et comment l'alimentation est une arme, en fait, a toujours été une arme dans l'histoire. Parce qu'en fait, ce que je peux dire au point de vue de mon parcours, c'est que, effectivement, pendant de nombreuses années, j'ai abandonné l'histoire. Mais dans tous mes livres, il y a de l'histoire.
Oui.
Voilà, il y a de l'histoire. Donc en fait, je ne l'ai jamais vraiment abandonné. Et donc j'ai voulu, dans l'arme alimentaire, essayer de faire un état des lieux, des rapports de force mondiaux et de parce que j'emploie beaucoup ce terme dans ce livre, de la façon dont l'impérialisme, c'était en 1978, c'était un vocabulaire qu'on n'utilise plus aujourd'hui, de la façon dont l'impérialisme s'emparait de la question alimentaire justement consolider un certain nombre de rapports de force. Et dans ce livre, j'ai une expérience assez intéressante d'ailleurs. Il y a quelques années, ça doit faire 7-8 ans, quelque chose comme ça, il y a eu un colloque en France sur les questions alimentaires. Et on m'a demandé d'intervenir, de faire la leçon inaugurale de ce colloque. Moi, ça faisait longtemps que je m'occupais plus directement de ces questions-là. Et on m'a demandé quelque chose de très intéressant, de relire l'arme alimentaire, mon bouquin qui était sorti en 1978, donc il y a eu plusieurs éditions, de relire l'arme alimentaire et d'essayer de dire ce qui était encore d'actualité, ce qui était totalement dépassé. Voilà. Et c'était une expérience. Donc j'ai relu ce bouquin, je n'ai pas l'habitude de relire systématiquement mes livres. Et il y a évidemment des questions qui sont dépassées, encore que, avec la guerre en Ukraine, on pourrait dire qu'elles reviennent d'actualité. Les questions qui sont dépassées, c'est toutes les questions liées à la guerre froide, c'est-à-dire à la rivalité Union soviétique-États-Unis dans le secteur alimentaire. Comment les États-Unis ont utilisé l'arme alimentaire, étant les États-Unis étant quand même la première puissance agricole mondiale, il ne faut jamais l'oublier, ce n'est pas seulement une puissance industrielle, c'est pas seulement une puissance technologique, militaire, mais c'est aussi une très grande puissance agricole. Et en revanche, ce qui m'a partiellement étonné quand j'ai fait cette relecture, c'est l'actualité de la question. L'actualité de la question, c'est-à-dire au fond, la modestie, la faiblesse de l'évolution des rapports de force dans le domaine agricole et alimentaire. C'est-à-dire que les pays africains, on peut dire la même chose des pays latino-américains, même si, évidemment, ils sont à un degré d'industrialisation beaucoup plus important que les pays d'Afrique subsaharienne, mais sont restés cantonnés dans la division internationale du travail à un rôle totalement extractiviste. C'est-à-dire qu'ils sont encore exportateurs de matières premières agricoles, ils ne transforment pas leurs matières premières, que ce soit... Et donc, les pays, les vieux pays industriels et les nouveaux pays industriels comme la Chine, eh bien, sont... alors, je parle pratiquement pas de la Chine dans l'arme alimentaire. En 1978, la Chine n'existait pas dans les rapports de force internationaux. Aujourd'hui, on ne pourrait pas éviter, évidemment, d'en parler. Mais donc, où les pays, un certain nombre de pays du Sud, ce qu'on appelle les moins développés, encore que je remets aujourd'hui totalement en question la notion de développement, qui est une notion qui n'est plus du tout pertinente, mais reste cantonné à un rôle de fournisseur de matières premières agricoles. Et donc, en fait, la question de l'arme alimentaire et la question des rapports de force dans le domaine agricole reste 40 ans après que j'ai écrit ce livre, toujours d'actualité.
Est-ce que les États indépendants, donc, y compris la Tunisie, mais les pays du subsaharien, l'Amérique latine, ailleurs, auraient pu choisir un modèle agricole plus indépendant des puissances ?
Incontestablement, oui.
Oui ?
Incontestablement, oui. Le problème de tous ces pays, c'est qu'au moment de l'indépendance, ils avaient une administration à construire, un État à construire et, accessoirement, une nouvelle classe sociale à enrichir. Et, en fait, tout cela s'est fait sur l'extraction de la plus-value agricole. Sur l'extraction de la plus-value agricole, c'est-à-dire que les paysanneries de ces pays ont été sacrifiées sur l'autel de la construction des États, des administrations publiques et de l'enrichissement de nouvelles élites, en fait. Ce qui fait qu'en fait, les paysanneries de ces pays sont soumises à une double exploitation. L'exploitation par les prix agricoles mondiaux, donc elles sont sous-payées, et l'exploitation par les couches dominantes de leur propre pays, qui, comme je vous le disais, extrait la plus-value du monde agricole. Ensuite, de quoi on a exporté dans ces pays, pour les besoins d'une agriculture extractiviste, des modèles agricoles qui sont des modèles donc, qui ont été conçus et appliqués dans les pays du Nord, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, et qui ne sont pas du tout adaptés aux pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord ou un certain nombre de pays d'Asie ou un certain nombre de pays d'Amérique latine. Et là encore, donc, ce sont les paysanneries qui ont été totalement sacrifiées sur cet autel. Ce qui fait que cela a été des freins au développement ou à ce qu'on appelait à l'époque le développement, dans la mesure où ce sacrifice des paysanneries a fait qu'il n'y a pas eu d'enrichissement de la population rurale, mais une paupérisation de la population rurale à part quelques segments, un exode rural extrêmement important, dans la mesure où cette paupérisation a amené les populations rurales vers les villes. Pourquoi ? Parce que ce sont les villes qui ont été équipées, les écoles, les infrastructures sanitaires, les emplois à trouver, etc. Et donc, plus la population... C'est une espèce de cercle vicieux, parce que plus la population urbaine augmentait, plus les régimes avaient peur de cette population urbaine. Dans la mesure où c'est toujours des villes, c'est souvent, pas toujours, des villes que partent les révoltes, que partent les insurrections. Et donc, et en plus, pour être compétitif dans la division internationale du travail, il fallait que la main-d'œuvre urbaine soit mal payée. Donc la main-d'œuvre urbaine était mal payée, cette main-d'œuvre industrielle. Et comment on peut faire supporter le fait que la main-d'œuvre salariés urbaine et mal payée, en lui donnant des produits agricoles à des prix accessibles, donc en sous-payant les produits agricoles du monde rural. Donc c'est un cercle vicieux qui aurait pu être évité.
Alors ma question était dans le sens où c'est un modèle économique imposé.
Imposé et accepté.
Par les pays coloniaux.
Certes, mais il y a eu une connivence entre, effectivement, les pays du Nord, les pays ex-coloniaux, et les couches dominantes du Sud, parce que les deux se sont enrichis. Il n'y a pas seulement les pays du Nord qui se sont enrichis en sous-payant les produits primaires, etc. Le café, le cacao, et tout ce qu'on voudra. Enfin, maintenant, le palmier à huile, les VA, enfin, on peut trouver toutes ces cultures primaires. Mais les couches dominantes du Sud aussi se sont enrichies sur cette extraction de la plus-value paysanne. Mais le résultat des courses, c'est qu'on continue d'être dans une économie primaire, agricole primaire, et qu'aucun de ces pays n'est autosuffisant, n'a acquis un minimum de souveraineté alimentaire.
Ahmed Moussala, toujours dans cette thématique-là, Ahmed Moussala, il a échoué, il a été empêché. Cette expérience des coopératives en Tunisie, comment...
Cette expérience des coopératives, j'en parlais avec un ami tout récemment. Cette expérience des coopératives a été un échec pour plusieurs raisons. D'abord, l'expérience Ben Salah n'a pas tenu compte de la réalité agricole et paysanne de la Tunisie, dans la mesure où la Tunisie est à la fois, dans l'intérieur, un pays de transhumance, de nomadisme et de transhumance tribale, et de grandes propriétés foncières qui sont des propriétés foncières de l'aristocratie absentéiste urbaine et des propriétés foncières énormes qui ont été les terres coloniales, puisque les terres coloniales à peu près ont monopolisé autour de 700 000 hectares. On peut considérer que la Tunisie a une surface agricole utile d'un peu moins de 5 millions d'hectares, donc c'était une partie très importante de la surface agricole utile. En revanche, vous avez toute une partie de la Tunisie qui est la Tunisie côtière, de Bizerte au sud, qui est depuis toujours, si l'on peut dire, depuis l'histoire la plus ancienne, qui connaît une agriculture de petits propriétaires agriculteurs, qu'ils soient sahéliens, qu'ils soient de la région de Bizerte. L'agriculture oasienne, c'est la même chose également, qui n'a pas été touchée par les expropriations coloniales. Pratiquement pas, cette agriculture, pas du tout. Cette agriculture de petits agriculteurs propriétaires de leurs terres. L'expérience Ben Salah, en fait, a voulu mettre tout ce monde-là en coopérative de façon parfaitement autoritaire. En fait, c'était pas une mise en coopérative, c'était une étatisation de l'agriculture, cette collectivisation. Une étatisation de l'agriculture qui a été un échec patent. C'est-à-dire que la production a diminué parce que les agriculteurs devenaient des salariés agricoles, ce qu'ils ne voulaient pas être. Et on a nationalisé les terres de colonisation par la loi du 12 mai 1964, mais elles ont été très mal exploitées. Et donc, vous avez eu une chute de la production. Donc, si la volonté de Ben Salah était pavée de bonnes intentions, si vous voulez, mais l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est une des raisons pour... Et puis, n'oublions pas que cette mise en coopérative de l'agriculture, c'est accompagné d'une mise en coopérative du commerce, d'une mise en coopérative. Tout a été mis en coopérative en Tunisie de façon parfaitement autoritaire. C'est-à-dire dans un contexte non démocratique. Dans un contexte où on n'a pas demandé aux gens leur avis sur cette mise en coopérative. Voilà. Et donc ce faisceau de données a fait que l'expérience de Ben Salah a été un échec incontestable.
Et donc, on a un échec de ce qu'on aurait pu être une alternative à cette dépendance.
Oui, ce qu'aurait pu être une alternative, Mais on ne transforme pas comme ça des paysans en salariés. Voilà. Ce n'est pas de cette façon-là, sans leur donner la parole, sans leur demander leur avis. Et c'est ça le problème. Et d'une certaine façon, même si après on a reconduit d'autres erreurs en Tunisie, mais d'une certaine façon, l'expérience, là où ces socialismes ont duré plus longtemps qu'en Tunisie, parce qu'en Tunisie ça a duré assez peu de temps, de 1962 à 1969. Vous prenez un pays comme l'Algérie par exemple. L'Algérie a une agriculture, la fameuse révolution agraire de l'époque de Boumediene, etc., a une agriculture totalement sinistrée. Alors qu'à l'époque coloniale, c'était un pays exportateur. Je ne dis pas cela pour louer la colonisation, puisque la richesse agricole de la colonisation s'est faite au détriment des autochtones. Bien entendu, en appauvrissant globalement la paysannerie des pays colonisés. Et donc cette extraction de la plus-value agricole s'est faite au bénéfice exclusif de la colonisation, bien évidemment. Mais il n'empêche que c'était des terres qui donnaient et qui étaient généreuses. Voilà. Aujourd'hui, bien entendu, un pays comme la Tunisie ne pourra jamais être totalement autosuffisant. C'est pas parce que, vu que la Tunisie est située en zone semi-aride et qui va être touchée de plus en plus par l'aridité, il est évident que l'autosuffisance céréalière est inatteignable en Tunisie, en blé tendre. Pourtant, la Tunisie a réussi à être relativement autosuffisante en viande bovine, en lait, etc., mais au prix donc d'une industrialisation de l'agriculture dont aujourd'hui on mesure les conséquences.
Et au prix d'une aggravation de la dépendance en céréales.
Non, de la dépendance en nourriture du bétail. Oui. C'est-à-dire que la Tunisie est autosuffisante aujourd'hui pratiquement en lait, en viande bovine, en viande ovine et en volaille, mais elle importe la quasi-totalité de son alimentation du bétail.
Pendant longtemps, je croyais que vous étiez géographe.
Non, je suis historien. Alors, évidemment, vous connaissez le système scolaire français, universitaire français. Quand on fait de l'histoire, on fait de la géographie. Donc, évidemment, ma licence d'histoire-géo... Alors, vous savez, on avait deux tiers histoire, un tiers géo dans le programme. Et à l'agrégation, c'est pareil. C'était deux tiers histoire, un tiers géo. Voilà. Donc j'ai fait de la géographie, puisque c'est le système français. Mais
votre approche aussi, quand le livre de encore une fois de l'arbre alimentaire, c'est un livre de géopolitique alimentaire.
Bien sûr, oui, c'est un livre de géopolitique, bien sûr, incontestablement, c'est un livre de géopolitique.
Voilà.
Mais la question alimentaire est un sujet de géopolitique.
Et la question alimentaire est aussi une question historienne.
Absolument.
Parce que ça remonte à loin. Et moi, j'ai l'habitude de parler de construction de la dépendance alimentaire.
Oui, vous avez tout à fait raison. La dépendance alimentaire se construit, effectivement. Maintenant, évidemment, la Tunisie a connu, bien avant la période coloniale, des périodes de disette, des périodes de détresse alimentaire. Elle n'a jamais été autosuffisante de façon pérenne. Bien sûr, à l'époque romaine, on parlait, à l'époque punique, on parlait de la richesse agricole de la Chora, qui était le domaine agricole de Carthage. C'est vrai. On sait qu'on cultivait des céréales jusqu'à Gafsa, que c'était une région céréalière extrêmement importante. Hein. C'était la trilogie méditerranéenne, vous savez, c'est le blé, la vigne, l'olivier. Bon. Donc il est évident qu'à l'époque punique, à l'époque romaine, la Tunisie était un des greniers de Rome, incontestablement, et jusqu'au IIe siècle, ça a été un grenier à blé de Rome, et puis après, l'Empire avait besoin d'huile, donc ça, la Tunisie, ce qui était à l'époque, enfin l'Africa romaine, alimentait l'Empire et alimentait la capitale en huile. Donc effectivement, la Tunisie a toujours été exportatrice. Mais il ne faut pas oublier la population de la Tunisie de l'époque. C'est-à-dire, ça tournait pendant toute, jusqu'à l'époque coloniale. La population tunisienne a tourné entre 2,5 millions et 1 million. 19e siècle, avant avant l'occupation coloniale a été une période extrêmement dure pour la Tunisie, une période catastrophique, une période de détresse, de sécheresse, de choléra, bon. Et la population tunisienne du 19e siècle a diminué pratiquement de moitié. Hein, au moment de l'occupation coloniale, de la conquête, on était à peine un peu plus d'un million d'habitants. Voilà.
Est-ce que vous avez été activiste politiquement parlant? Est-ce que vous étiez engagé à un moment ou à un autre politiquement quelque part?
Dans ma jeunesse, oui. Quand je suis arrivé à Paris en octobre 1965 pour mes études supérieures, donc je suis entré en Hippocagne en octobre 1965 et j'ai tout de suite adhéré à la section étudiante du Parti communiste tunisien à l'époque. Voilà. Donc j'ai milité au Parti communiste tunisien où il y avait à l'époque beaucoup d'étudiants tunisiens à Paris. Et donc c'était une question presque, je dirais, généalogique, puisque mes parents avaient été communistes, mon père avait été un dirigeant du Parti communiste tunisien, des militants, enfin mes parents se sont éloignés du parti à partir des années 1965, à peu près. À partir du moment en fait où mon père a été nommé au Cameroun et où les désillusions vis-à-vis du communisme ont commencé, encore que mes parents étaient très réservés par rapport à l'invasion de la Hongrie par les troupes soviétiques en 1956. Donc, un questionnement. Enfin, moi, en arrivant à Paris, la première chose que j'ai faite, c'est d'adhérer au Parti communiste. Bon.
Et vous étiez resté actif combien de temps politiquement, je veux dire, dans une organisation ou un parti, le PCT ou ailleurs?
Je suis resté 3 ans à peu près au Parti communiste tunisien, et puis j'avais des divergences extrêmement importantes qui font que je l'ai quitté. J'ai quitté le Parti communiste tunisien en 1968.
Et on peut savoir la nature de la divergence?
Les divergences, si je me souviens, certaines d'entre elles. J'avais donc 20 ans en mai 68. Et j'ai fait tous mes 68 à Paris. Le parti était contre mai 68 au départ. Comme le PCF, hein, le parti tunisien suivait la ligne du PCF. Et donc c'était une révolte étudiante, petite bourgeoise. Les masses ouvrières n'étaient pas impliquées. D'ailleurs, le PCF a adhéré à mai 68 à partir du moment où il y a eu la grève générale, où les ouvriers ont rejoint et capté le mouvement. Donc moi j'avoue que c'était une révolution qui me plaisait, mai 68. Je me retrouvais dans cette explosion, disons. Et puis j'étais pas d'accord sur des choses plus importantes, c'est-à-dire qu'à l'époque, évidemment, le Parti communiste tunisien, donc suivant cela le PCF, c'était la grande époque de la scission Union soviétique-Chine, et je pensais qu'il fallait pas être aussi anti-chinois que... J'étais pas pro-chinois, j'ai jamais été maoïste, hein, absolument jamais. Le maoïsme ne m'a jamais tenté. Mais j'estimais qu'on n'analysait pas assez les situations géopolitiques mondiales, et puis qu'on était trop suivis de l'Union soviétique, donc j'avais vraiment des divergences de fond qui m'ont fait quitter le parti. J'avais beaucoup d'amis dans le mouvement Perspective, mais je n'y ai jamais adhéré, en fait. J'ai été proche des Perspectives, parce que je m'étais promise, en fait, en quittant le parti, je me suis dit que je n'adhérerais plus jamais formellement à aucun parti. Je pouvais être compagnonne de route, mais sans adhérer. Donc voilà, j'ai été proche des Perspectives.
Intellectuellement, la chercheuse, vous êtes toujours un peu marxiste
ou... Je pense... Alors, Marx a été un des penseurs les plus importants de l'époque moderne, de l'époque contemporaine. Si on fait partir, comme le veut la doxa des historiens, l'époque contemporaine à la Révolution française, donc c'est un des penseurs les plus importants, et il demeure un des penseurs les plus importants de l'époque contemporaine. Donc évidemment, l'échec du communisme réalisé a fait, comme on le dit vulgairement, jeter le bébé avec l'eau du bain. Et se dire marxiste aujourd'hui est presque mal élevé. Voilà. À certains égards, oui, je suis resté marxiste. Oui, j'utilise la pensée de Marx pour continuer à penser. Je ne suis pas léniniste. Voilà. Je pense qu'au fond, ce qu'on a appelé les marxistes n'ont cessé de défigurer la pensée de Marx. Voilà. Et le léninisme est un dévoiement de la pensée marxiste, même si la pensée de Marx a donné des arguments à ceux qui l'ont dévoyée. Mais c'est un dévoiement. Je pense que, même si Marx a employé le terme de dictature du prolétariat, certes, c'est une invention marxienne, la dictature du prolétariat, mais je ne crois pas que Marx pouvait penser que la dictature du prolétariat s'incarnerait dans la figure du stalinisme, par exemple. Voilà. Et donc le communisme réalisé a été un tragique dévoiement d'une des pensées les plus riches de l'époque contemporaine.
Et est-ce que ce positionnement, l'adhésion au Parti communiste, est-ce que c'est ça ce qui vous a coûté la possibilité d'avoir un poste en Tunisie?
Non, je ne pense pas, c'est parce que j'étais juif.
D'accord.
Non, je pense pas. Alors, juif et communiste, évidemment, on accumule l'état. On double le problème, bien sûr. Mais je pense que c'est bien davantage ma judaïté, mon appartenance à la minorité juive, que mon appartenance au PC, d'autant que j'avais déjà quitté le PC. Bon, bien sûr, j'étais proche de l'extrême gauche tunisienne à l'époque, mais j'ai eu l'agrégation en 1972, donc j'ai demandé un poste à Tunis en 72, en 73, en 74, 3 ans de suite. En 74, j'ai abandonné. Enfin, j'ai abandonné, mais je me souviens parce que j'ai rangé ma correspondance récemment pour pouvoir nettoyer mes tiroirs et mes caisses. Et j'ai retrouvé mes demandes. Et la dernière demande date de 1974. Voilà. Et j'ai retrouvé les lettres de refus, disant qu'il n'y avait pas de poste pour moi. Voilà.
D'accord.
Alors qu'à l'époque, le nombre d'agrégés tunisiens était extrêmement restreint. Il y en avait très peu. Depuis le début des années 60, la Tunisie ne voulait plus de fonctionnaires juifs. Alors certains ont perduré un peu plus longtemps, mais au début des années 70, il n'y avait plus aucun fonctionnaire juif en Tunisie.
Vous connaissiez Bernard Pache à l'époque?
Et oui, je l'ai connu, bien sûr, puisqu'il a même habité, en sortant de prison, il a habité l'appartement que nous louions à Tunis. Et comme on n'était pas à Tunis, ma mère lui avait prêté l'appartement que nous occupions. Donc, moi, j'ai connu les historiques de Perspective, en fait, surtout Nourdine Ben Khadr. Je n'ai jamais été très proche de papy. J'étais, par contre, très proche de Nourdine Ben Khadr. Je l'ai connu entre ces deux séjours en prison. Je l'ai connu en 71, sans doute. C'est-à-dire que quand ils avaient bénéficié de la grâce présidentielle, qui était une grâce conditionnelle, donc ils ont passé un an... tous un peu plus, un an et demi, quelque chose comme ça, en résidence surveillée. Et Nourdine était en résidence surveillée, si mes souvenirs sont bons, à Jbeniana. Et c'est là que je l'ai connu, en fait. Donc en 71, 72, je ne sais pas exactement quand ils ont été remis en prison, il faudrait vérifier les dates, hein, je les ai un peu oubliées, et c'est là que j'ai connu les principaux dirigeants de Perspective, Nourdine. Après, évidemment, je l'ai revu après sa libération. Mais nous avons été liés par une amitié très profonde avec Nourdine, avec Khalid Belalouna aussi. Et j'avais fait un stage à l'association de sauvegarde de la Médina, à l'ASM, durant l'été 1971. Et mon patron était Khalid Belalouna. Et donc j'avais travaillé avec Khalid et là aussi, nous sommes restés amis. Donc, j'ai connu papy aussi, mais je crois que j'ai connu papy seulement en 79, quand il est sorti de prison en 79. Je ne crois pas l'avoir connu dans cet entre-deux de liberté qu'ils ont connu. J'ai été très proche de Ahmed Ben Othman, puisqu'on a même écrit un bouquin ensemble. Voilà. Schlieff, je l'ai connu plus tard. Parce que Schlieff, c'est un peu la génération d'après Schlieff, Fethi Belhaj Yahya, Hichem Abdesmad, qui sont tous d'excellents amis, mais je les ai connus un peu plus tard.
Salahuddin
Amami. Oui, Salahuddin Amami, bien sûr, je l'ai connu. Bien sûr.
C'est quelqu'un qu'on regrette.
Absolument, c'est quelqu'un qui manque.
Son apport
a été fondamental à Salah Amami. Fondamental.
Et vous l'avez connu personnellement?
Je l'ai connu personnellement.
C'était un marxiste,
tout à fait.
Oui.
Mais vous savez, il y a quelque chose de très intéressant en Tunisie. Ce qu'on peut appeler cette génération perspective, un peu plus âgée que moi, hein, disons, c'était... que ce soit les Dourdine, Mdradra, les Ahmed Smewi, les Mohamed Charfi, les Salah Amami, tout ça. Mais on donnait les cadres les plus compétents de la Tunisie des années 70. Et 70 et 80, quand ils ont été libérés, ceux qui ont été libérés à la fin des années 70, au début des années 80, ils ont donné la fine fleur de l'élite intellectuelle tunisienne. Même quand ils ont cessé de militer, même quand ils ont cessé d'être des militants, cessé d'être des activistes politiques. Mais c'est l'histoire de cette génération, il y a eu des études sur le mouvement Perspective, mais l'histoire globale de cette génération reste à écrire.
Est-ce que vous avez des professeurs, je parle du côté académique ou de formation, y compris intellectuel comme ça? Des professeurs, des hommes, des femmes qui vous ont...
Mais Tunisiens, vous voulez dire?
Tunisiens et étrangers.
Moi, je n'ai jamais fait mes études en Tunisie. J'ai fait toutes mes études en France, de l'hypocagne à l'agrégation. Donc, les profs qui m'ont marqué... Bon, en Tunisie, elle a marqué toutes les générations. Donc, j'ai passé mon premier trimestre de classe terminale de philosophie au lycée franco-éthiopien d'Addis Abeba. Et puis après, on est rentré à Tunis... Et donc, j'étais au lycée Carnot. À partir de janvier, j'étais à Carnot et on avait comme prof de philo Madame Kamesh. Madame Kamesh, qui était la sœur d'Alain Krivine. Et donc, elle avait épousé un Tunisien, Madame Kamesh. Donc, elle a enseigné à des générations d'élèves tunisiens. Après, elle a divorcé, mais elle est restée en Tunisie. Et donc, Madame Kamesh a formé des générations de Tunisiens, donc en philosophie. Voilà une des professeurs en Tunisie qui m'a marqué incontestablement, qui a marqué des générations d'élèves de philosophie. Elle était très pédagogue, elle était... Ensuite, à Paris, j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de professeurs prestigieux, dont par exemple Albert Soboul, que j'ai eu comme prof 2 ans de suite. Soboul, je l'ai eu en licence à... Il se donnait un cours sur la Révolution française, c'était un personnage, hein, Soboul, vraiment un personnage. Et après, je l'ai eu en cours d'agrégation aussi, ce qui donnait un cours sur la Révolution anglaise. Donc, il y a comme ça, bon, en géographie, j'ai eu Jean Drèche comme prof. Hein. À l'époque, c'était encore les Drèche, les... Despois n'était plus prof à l'époque. Mais j'ai eu Pierre Georges, également, en géographie urbaine. Voilà. Donc, il y avait encore des espèces de, je veux dire, ces personnages qui ont marqué des générations d'étudiants.
Est-ce que vous avez vu en profondeur, en tant qu'universitaire, enfin, académique, démarche à l'académie, Khaldoun ?
Indispensable. On ne peut pas ne pas lire Ibn Khaldoun, c'est impossible. Je n'ai pas lu tout Ibn Khaldoun, parce que, bon... Mais bien entendu, j'ai lu la Muqaddima, j'ai lu l'histoire des Berbères. Bon. Ibn Khaldoun est un personnage tout à fait étrange. 14e siècle, donc. Si mes souvenirs sont bons. On en parle, mais à juste titre, je crois, comme l'inventeur de la sociologie, d'une certaine façon. Il est novateur en tout. Dans ses analyses. Il était socialement extrêmement conservateur. C'était un homme extrêmement conservateur. Il était qazi, il a été qazi malékite au Caire. Bon, il a eu une vie politique aussi extrêmement, extrêmement agitée, mais il a donné des clés de lecture. C'est fou, la pensée d'Ibn Khaldoun. Il a donné des clés de lecture des sociétés maghrébines dont certaines sont encore opératoires aujourd'hui. C'est ça qui est fascinant chez Ibn Khaldoun. C'est qu'aujourd'hui, on peut encore être khaldounien ou pas khaldounien, mais ces clés de lecture sont opératoires. Et c'est extrêmement fascinant pour un penseur du XIVe siècle quand même.
Je vais revenir un peu au début de votre itinéraire personnel. Quel genre de jeune femme vous étiez, vos lectures, votre vie, est-ce que vous avez eu facilement accès aux livres,
J'ai eu la chance, et c'est peut-être une de mes plus grandes reconnaissances à mes parents, je suis né dans une bibliothèque. Voilà. Donc j'ai eu un accès aux livres dès ma plus tendre enfance. Mais la maison était remplie de bouquins. Et j'avais accès à tout. C'est-à-dire que mes parents n'ont jamais caché des bouquins que je ne devais pas lire. Donc j'ai eu accès absolument à tout très jeune. Et effectivement, la lecture est pour moi une des choses les plus importantes qui puisse exister. Ma jeunesse a été à la fois, je vous l'ai dit, une jeunesse militante, une jeunesse studieuse. J'étais une grosse bosseuse, je crois. Même si j'ai eu quelques années dans le secondaire où j'étais totalement cancre. Ce qui ne m'a pas empêché, au fond, de m'amuser, d'avoir des amours, d'avoir des liaisons, heureusement. Je veux dire, je n'ai jamais été un pur esprit. Mais en fait, bon, quand j'étais en terminale à Tunis, c'était la période où les jeunes, c'était les surbooms, c'était... je faisais partie de cette jeunesse-là. Ensuite, de quoi ? Pendant ma période d'études, je ne me suis pas tellement amusé, en fait. C'est plus tard que j'ai commencé à avoir un peu plus le sens de la fête en disant qu'on ne peut pas passer sa vie à faire des choses sérieuses. Voilà. Ça ne suffit pas. Alors, évidemment... J'ai toujours lu des bouquins de boulot, je veux dire, ou des bouquins de... aussi bien du fait de mes convictions politiques, donc j'ai lu beaucoup d'auteurs marxistes, évidemment, lu, relu, plongé dans cette littérature politique et cette littérature philosophique. Évidemment, des historiens, des économistes. Après, quand j'ai commencé à faire de l'économie, on parlait de l'arme alimentaire tout à l'heure, j'ai lu évidemment les classiques de l'économie. Mais toute ma vie, je ne me suis jamais cantonné à cela. Et j'ai toujours lu énormément de littérature. Énormément. Pour moi, me priver de littérature, me priver de romans, me priver de poésie, j'ai toujours lu énormément de poésie, ce serait me priver d'une partie importante de moi-même. Et donc j'ai toujours, même maintenant, en chantier de lecture, toujours deux bouquins. Un bouquin de boulot, appelons-les comme ça, et un roman.
Vous lisez aussi en arabe ?
Très mal. Très mal. Alors j'ai fait de l'arabe, parce que mes parents tenaient absolument à ce que je sois arabisante. Donc, quand j'étais gauche, je me souviens, j'avais des cours d'arabe. Bon, à la maison, on parlait français et italien, hein, on ne parlait pas l'arabe. L'arabe était une langue annexe, l'arabe dialectal, il faut bien en convenir. Comme dans beaucoup de familles de la bourgeoisie juive, qui avaient été linguistiquement francisées, même si mes parents se sentaient 100% tunisiens. Mais l'arabe n'a pas été ma langue maternelle. Bon. En revanche, c'était beaucoup plus dans les classes populaires juives que l'arabe était la langue maternelle. Voilà. Mais dans la bourgeoisie juive, c'était linguistiquement francisé, en fait.
Et c'était la famille était plutôt conservatrice en termes de normes ?
Non, libérale, très libérale.
D'accord.
J'ai vécu, bon, mes parents, comme je vous l'ai dit, étaient communistes.
Ouais.
Et du côté de, par exemple, sur le plan religieux, bon, à part... Mes parents, donc, j'ai eu une éducation totalement incroyante et laïque. Mais même du côté de mes deux familles de grands-parents, c'était un judaïsme très libéral, en fait. Du côté de ma famille paternelle, mon grand-père, qui était un notable, respectait les grandes fêtes. C'est tout. Mais moi, j'ai jamais su, quand j'étais gosse, que c'était un Shabbat, que c'était... Il n'y avait pas de pratique quotidienne de la religion, aucune, absolument aucune. Et du côté de ma grand-mère maternelle, ça aussi, c'était les grandes fêtes, respectées. Et son seul respect du Shabbat à ma grand-mère maternelle, qui était croyante, hein, était croyante. C'était qu'elle c'était une très grosse fumeuse, elle ne fumait pas le samedi. C'est tout. Voilà. Voilà. Mais par exemple, après, on m'a raconté plus tard les gens qui n'allumaient pas le gaz, qui n'allumaient pas l'électricité et tout. Moi, j'ai jamais connu ça. Jamais. Donc, j'ai eu une éducation très laïque. Et donc, dans les deux familles, c'était un judaïsme extrêmement libéral. Extrêmement libéral. D'accord. Donc, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, oui. Bon, je connaissais les grandes fêtes. Voilà.
Bien sûr, les grandes fêtes, c'est un peu l'esprit familial.
Voilà, c'est l'esprit familial. On était réunis pour les grandes fêtes chez mes grands-parents. Voilà. Donc, mon éducation est une éducation parfaitement laïque.
La Tunisie, vous connaissiez bien. Vous êtes promené partout.
Et mon père, d'abord, avant d'être viré du ministère de l'Agriculture, a été un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. C'était un agronome, mon père. Et je peux dire que cet homme connaissait la Tunisie village par village. Parce qu'il était... je me souviens, le mot clé de la vie professionnelle de mon père quand j'étais gosse, c'était « je suis en tournée ». Mais vraiment, il connaissait la Tunisie rurale, la Tunisie paysanne, la Tunisie agricole, comme sa poche. Et en fait, il l'avait connue de deux façons. En tant que militant du PC, d'abord, parce que, il faisait pour le parti, parce qu'il avait été permanent du parti un certain temps, il faisait pour le parti des tournées. Et puis après, en tant que fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Et effectivement, je crois que ma mère, qui était prof d'histoire géo, donc vous voyez que c'est... J'ai une filiation, a enseigné d'abord à Sadiqi Khaznadar pendant plusieurs années, et ensuite au collège Alaoui, elle était prof d'histoire géo, elle a démarré comme géographe et après elle est devenue historienne.
Être juif, agronome à l'époque et militant de politique, pour le terrain, comme on dit, pour rencontrer les gens, faire des enquêtes, poser des questions, parler. C'était un obstacle, le fait d'être juif.
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Au fond, alors il y a, vous savez, en Tunisie, un vieil anti-judaïsme traditionnel, si je peux dire, Liot Hachek, etc., etc. Vous connaissez les formules aussi bien que moi. Bon. Donc, mais je crois que dans le métier de mon père, non. Non, ça ne s'est... En fait, d'une certaine façon, on peut dire que ce sont les élites politiques qui ont construit une Tunisie exclusivement arabo-musulmane, en ne tenant pas compte des minorités. Je le disais dans un colloque récent, en fait, c'est une des impasses de la construction bourguibienne, me semble-t-il. C'est, vous savez que quelques semaines après l'indépendance a été adopté l'article 1er de la constitution tunisienne. Donc la Tunisie est un pays arabe et musulman. Très vite, en fait, les minorités halogènes ont été priées de partir, et certaines qui existaient avant la colonisation, comme les Italiens, comme les Maltais. La minorité juive... vous avez une petite partie de la minorité des juifs qui est partie par conviction sioniste dans les années 50. Bon, il y a eu des sionistes, des juifs sionistes en Tunisie, surtout dans les milieux les plus populaires d'ailleurs, qui ont été, parce que c'était des milieux très religieux en même temps, les milieux populaires juifs. Et donc il y avait cette espèce de messianisme du sionisme qui était... retourner en terre promise. Donc il y avait tout un discours messianique autour du sionisme qui a séduit une partie de la population juive tunisienne. On évalue à peu près à 25% la population juive tunisienne, la proportion de juifs tunisiens qui sont partis en Israël dans les années 1950. Les autres ont été poussés au départ, en réalité, par une série de discriminations, plus ou moins évidentes, plus ou moins cachées, plus ou moins fortes, etc. Et donc, d'une certaine façon, si les élites, je pense, politiques, avaient eu un autre comportement, les choses ne se seraient pas passées comme ça, probablement. Voilà. Mais au niveau du quotidien, je crois que mon père, donc, qui était un ruraliste, n'a jamais été empêché de prendre le thé avec personne du fait de sa judaïté. Jamais.
Je crois que c'est Gilbert, je n'ai plus de souvenirs, je crois que c'est Gilbert qui me disait que le fait d'être agronome dépassait le fait d'être juif.
Absolument. Et ça peut s'appliquer à mon père. Et mon père aimait cette vie-là. Mon père était bien qu'issu de la grande bourgeoisie, mais mon père aimait cette vie simple de la campagne. Il ne prenait jamais autant de plaisir que de partager un casse-croûte avec des paysans. Et ça, ça crée des liens. Au-delà de juifs, musulmans, etc., vous partagez le casse-croûte avec quelqu'un, c'est ça qui est important.
Extrêmement. Vous êtes passé par l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a
amené là-dedans? C'est très marrant. Je ne regrette pas. Hein. Ça a été de très belles années professionnelles pour moi, jeune Afrique, même si jeune Afrique est un journal tout à fait particulier, on va dire. Je suis entré à Jeune Afrique par hasard. C'est une expérience journalistique extrêmement intéressante. Je suis entré à Jeune Afrique pratiquement par hasard. Quand j'ai quitté donc ce journal agricole qui s'appelait Afrique Agriculture, donc après l'arme alimentaire, c'était un ami de mon père, un ami tunisien de mon père, Bakar Touzen, qui avait été ministre en Tunisie et qui aimait beaucoup mon père. Et Bakar Touzen me dit « Mais tu es faite pour Jeune Afrique ». Moi, je n'avais jamais pensé à Jeune Afrique. Et donc, comme il était très ami avec Béchir Ben Yahmed, il me présente à Béchir Ben Yahmed, et je vous passe les détails, Béchir Ben Yahmed m'engage à Jeune Afrique. Et en fait, ça a changé ma vie. Donc, c'est quelque chose de très important, mon entrée à Jeune Afrique, dans la mesure où, d'abord, bon, Afrique Agriculture m'avait permis de rester connecté à l'Afrique subsaharienne, bien sûr. Et donc, en fait, mon itinéraire, ma trajectoire professionnelle a correspondu tout à fait avec ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire rester connecté à l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Et pendant des années de ma vie, parce que je suis resté à Jeune Afrique à plein temps pendant 10 ans, ensuite de quoi, à temps partiel, mais important, pendant 7 ou 8 ans. Donc en fait, ça fait plus de 15 ans, disons, hein, où j'ai sillonné le continent africain. Et donc, ce continent, ses problèmes, ses questions, ses paysages, ses élites me sont familiers. Et donc, pour moi, même si j'ai eu quelques différends importants avec Ben Yahmed sur les questions politiques, etc., ça a été des années professionnelles extrêmement riches en Afrique. Puis il faut bien dire les choses. Ben Yahmed avait des ambiguïtés politiques tout à fait grandes, avait un peu trop d'amitié avec un certain nombre de chefs d'État. On peut faire toutes les critiques que l'on veut à Jeune Afrique. Avait des financièrement peu transparent, on va dire. Je cherche des formules acceptables. Financièrement peu transparent, mais Ben Yahmed avait été un grand journaliste. Et c'était, Jeune Afrique était une école, tout de même. Voilà. Jeune Afrique était une école. Et je peux dire que j'étais un peu la caution de gauche de Jeune Afrique. Sur la Tunisie, j'écrivais en binôme, on écrivait beaucoup en binôme avec Soher Belhassen. On écrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. La seule fois, je crois, où Ben Yahmed m'a censuré, c'était, il y avait une lettre qui s'appelait « La grève confidentielle », je crois, quelque chose comme ça. C'était à l'époque de Mzali. Mais j'ai oublié, la raison. Mon petit papier n'était pas paru. Jusqu'à la mort de Beni Ahmed il y a 2 ans, j'avais gardé des relations, bonnes relations avec lui. Et j'écrivais 1 ou 2 articles par an dans sa revue, par fidélité, si vous voulez, voilà. Mais j'étais passé à autre chose, j'avais retrouvé mon métier d'historienne, voilà. Mais je sais qu'il avait été, quand j'ai sorti mon histoire de la Tunisie, donc c'était en 2019, il avait été enthousiasmé par cette histoire, en réalité. Et donc, il l'avait offert à plein de gens. Enfin, il avait été très, très laudatif, ce qui m'avait évidemment fait plaisir.
Il ne la connaissait pas si bien. Il n'avait pas cette connaissance historique de la Tunisie.
Non, bien sûr. C'est pas un historien, Beni Ahmed. Il avait une connaissance très intime de la Tunisie contemporaine. Il avait été un bourguibien convaincu. Il est resté toute sa vie, d'ailleurs. Bien, malgré les critiques qu'il a pu faire à Bourguiba, malgré les avanies qu'il a pu connaître, c'était un bourguibiste à 2000%. Voilà. Mais il ne connaissait pas toute l'histoire de la Tunisie, non.
Vous avez aussi écrit un livre
avec Sohail Belhassen, oui, une biographie de Bourguiba.
Et quelles étaient votre relation?
Et ça, c'était une commande de Beni Ahmed. Avec Bourguiba, aucune. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie.
Mais intellectuellement, politiquement...
Écoutez, ma génération a été, comment dire, a bu du Bourguiba comme du buvard. Je veux dire, Bourguiba était omniprésent quand même. Bourguiba était omniprésent chez les gens de ma génération. Donc il y avait une sorte de connaissance intime du personnage, même sans jamais l'avoir connu. Bon, il a formaté des générations de Tunisiens. Voilà. Sa voix, ses attitudes, sa parole, sa politique, sa... Donc on peut dire que sans avoir jamais rencontré cet homme, j'ai eu une très grande intimité avec lui.
Et le fait d'être femme, ça fait partie de cette relation?
Oui, alors c'est très marrant, l'argument, parce que le livre, la biographie de Bourguiba, nous avait été commandé par Michel Beni Ahmed à Sohail et moi. Donc c'est lui qui a dit, je veux une biographie de Bourguiba accessible. Je ne veux pas un ouvrage pour les savants. Je veux un ouvrage qui puisse être lu par tout le monde. Et il avait essayé de faire écrire une biographie des biographies de Bourguiba. Et un jour, il a, comme le Eureka d'Archimède, dit, mais il faut que je mette Sohail Belhassen et Sophie Bessis ensemble pour écrire cette biographie. Sohail Belhassen, journaliste, qui avait beaucoup écrit sur la Tunisie, etc., qui connaissait la Tunisie contemporaine, Sophie Bessis, historienne, ça va super bien marcher ensemble. Bon, et ça a très bien marché, effectivement. Nous avions dit d'accord, à condition qu'il n'y ait pas de censure. Qu'on dise ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais qu'on dise ce qu'on veut. Et donc, on a écrit ce Bourguiba en toute liberté, par rapport à Beni Ahmed, en toute liberté, entre 1985 et 1988. Bon, Bourguiba était encore vivant. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore vivants parmi ses compagnons de la première heure, etc. Donc on a interviewé tout le monde, sauf ceux qui n'ont pas voulu être interviewés. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu être interrogés. Donc voilà, ce livre est sorti en 88, aux éditions Jeune Afrique à l'époque. D'abord, c'était une biographie non autorisée. Bon. Donc, parfaitement libre. Je crois que c'est un livre qui a très bien marché, parce que c'est un livre libre, non autorisé, et qui a essayé de dire le maximum de choses sur le personnage, qui a fait une généalogie du personnage, qui a et qui l'a intégré dans son environnement historique, politique, voilà.
Et qui n'a pas été interdit en Tunisie, à ma connaissance.
Il n'a jamais été interdit. Non, et puis après, il a été épuisé, il a été réédité en 2012, aux éditions Elisade. Voilà. Et là, je crois qu'il va être réédité parce qu'il est encore épuisé.
Vous avez travaillé, écrit, bien des choses sur les femmes.
Oui.
Lisiane Yara.
Oui.
C'était le côté militant, c'était le côté intellectuel, c'était
les deux.
C'était de l'engagement.
Et de l'engagement, bien sûr. Bien sûr, de l'engagement qui est quelque chose de central. Donc, très vite, j'ai commencé à écrire des articles sur les femmes, etc. Et on avait accumulé, Souhaïl de son côté et moi de l'autre, énormément de connaissances sur les femmes du Maghreb. Et donc, on a décidé, en 1990, d'écrire un bouquin ensemble. Et c'est mon premier bouquin, c'est notre. Donc ça s'appelle « Femmes du Maghreb, l'enjeu », qui est sorti en 1992, donc, que j'ai écrit avec la collaboration de Souhaïl. Et puis après, j'en ai écrit un autre, toute seule, cette fois-ci en 2007, plus large sur le monde arabe, qui s'appelle « Les Arabes, les femmes, la liberté ». Et puis j'ai écrit une infinité d'articles sur les femmes, je veux dire, ça ferait 4 ou 5 volumes.
J'étais militante, féministe.
Je me considère comme féministe, oui. J'ai, depuis sa création, j'ai ma carte de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Donc, mais que ce soit dans le domaine des femmes, que ce soit dans d'autres domaines, bien que toute écriture soit située, c'est l'évidence. Il n'y a pas d'écriture qui tombe du ciel. Comme disent les psychanalystes, d'où parles-tu ? Voilà. Mais je pense que quand on veut écrire quelque chose de sérieux, soit on décide de faire un bouquin militant, ça c'est autre chose. Voilà. Mais le chercheur ou la chercheur, dans mon cas, doit laisser sa militance de côté. Maintenant, si j'ai écrit sur les femmes, c'est que je suis engagé en faveur des femmes, évidemment. Voilà. Mais les deux bouquins que j'ai écrits et tous les articles que j'ai écrits sont des travaux de chercheurs.
Voilà. Mais c'est toujours l'engagement qui a dirigé vos réflexions, vos travaux, vos explorations, vos écrits.
Je dirais plutôt, il y a toujours une part d'engagement dans ce que j'ai écrit. Je veux dire, depuis l'arme alimentaire jusqu'à... C'est-à-dire que si je prends ce que je considère être mes bouquins les plus importants, comme L'Occident et les autres, que j'ai sorti en 2000, avec le sous-titre qui s'appelle Histoire d'une suprématie. Ce livre qui est, pour moi, je pense, un des plus importants. Je vous le disais, c'est évidemment un livre situé. C'est-à-dire que mon point de vue a toujours été un point de vue du Sud. Voilà. Je me considère, bien que de culture française, je veux dire, je ne nie pas ma part française qui est très importante. J'ai toujours écrit en français. Ma langue de travail, ma langue de vie est la langue française, même si je parle arabe dialectal couramment, mais ce n'est pas ma langue de travail. Donc ma part française, je n'ai jamais eu pour objet de nier cette part française en moi, qui est une part essentiellement culturelle. Mais je suis tunisienne, même si je me suis toujours posé la question de savoir si j'étais... Enfin, c'est la société tunisienne qui me pose la question, c'est pas moi. Si je suis une tunisienne à part entière ou une tunisienne entièrement à part. C'est peut-être les deux à la fois, vous avez tout à fait raison. Je suis à la fois une tunisienne à part entière et une tunisienne entièrement à part. Donc mon écriture est une écriture située, donc dans l'Occident et les autres, je fais une critique. Aucun de mes bouquins n'a jamais été un pamphlet. C'est-à-dire que même quand je fais une critique radicale de, par exemple, de la posture de l'Occident comme posture de suprématie absolue, jamais dans un langage pamphlétaire. Mais ce sont des bouquins engagés. C'est évident que l'Occident et les autres est un bouquin dans lequel la part d'engagement est très importante. Sinon, je n'aurais pas lu l'histoire de cette manière. Et même dans mon histoire de la Tunisie, Là, c'est un livre où j'ai respecté tous les canons académiques du livre d'histoire. Pour autant, on peut se poser la question de savoir pourquoi j'ai écrit une histoire de la Tunisie. Voilà. Pourquoi j'ai écrit une histoire de la Tunisie. Et pourquoi m'a-t-on demandé de l'écrire, l'histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours?
Et qui vous a demandé?
Ben, un jour, les éditions Talendier, bon, c'est la maison d'édition historique en France, hein, les éditions Talendier, et qui a une collection de gros bouquins d'histoire sur l'histoire des pays. Une éditrice de la maison Talendier m'appelle et me dit: on voudrait que vous écriviez une histoire de la Tunisie, des origines à nos jours. Première question que je lui pose, c'est pourquoi moi? Et elle me répond, bon, on a cherché, tout le monde nous a dit Sophie Bessis. J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai pesé le cours et le pour et le contre parce que je savais que c'était un tunnel dans lequel j'entrais et qu'à des périodes, moi je suis contemporanéiste en histoire. Donc il y a des périodes de l'histoire de la Tunisie, en particulier la période médiévale, où à part les noms des grandes dynasties, je connaissais pas grand-chose d'autre, je veux dire. Hein. Donc j'ai travaillé pendant pratiquement un an sur la période médiévale. Et puis, j'ai fini par dire oui. En fait, j'ai réfléchi à un mois, quelque chose comme ça. J'ai consulté mes amis à Tunis. Tout le monde m'a dit, tu dis oui. Et donc, c'est un point de vue. Toute histoire est un point de vue. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de déconstruire le roman historique. Tout pays a son roman historique, bien sûr. Et tout historien, presque dirais-je, a pour devoir, non pas d'alimenter le roman historique, mais de le déconstruire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et essayé, autant que faire se pouvait, d'écrire une histoire de la Tunisie qui se rapproche le plus possible de la véracité historique. Voilà. Et en fait, bien que ça ait été un boulot extrêmement ardu, difficile, je ne le regrette pas un seul instant. D'avoir écrit cette histoire, dans la mesure où sa réception a été excellente, formidable, et ça montre au fond les contradictions de ce pays aussi. Parce que si je vous disais à un instant que je suis à la fois une Tunisienne à part entière et une Tunisienne entièrement à part, eh bien, tous les Tunisiens qui ont lu cette histoire, et les Tunisiennes, où je ne scelle aucun des problèmes qu'a rencontré la Tunisie au cours de 3000 ans d'histoire, l'ont considéré comme une histoire de la Tunisie écrite par une Tunisienne. Voilà. C'est comme ça que ce livre a été perçu, à ma grande joie.
En France, vous êtes considéré comme Tunisien?
Ça, c'est très compliqué. Vous savez, partout dans le monde, peut-être particulièrement en France, on aime bien mettre les gens dans des tiroirs. On peut mettre dans aucun tiroir. Oui, je suis française, mais je suis pas tout à fait française. Je suis tunisienne. Mais enfin, dans l'université ou dans les milieux officiels, solliciter des Tunisiens, sans aucun antisémitisme, la question n'est pas là. Il faut un nom bien arabe, quand même. Bon, ce qui n'est pas le mien. Je n'ai pas un nom bien arabe. Donc, là aussi, je suis tunisienne, bien sûr, oui, je suis tunisienne. Mais, tunisienne entièrement à part. Je suis historienne, rien à faire, elle a une agrégation, on ne peut rien dire. Mais je n'ai jamais eu de carrière universitaire, jamais. Je suis en tout un électron libre. Donc on peut me mettre dans aucun tiroir. Et ça gêne beaucoup de gens, en fait. Ça gêne beaucoup de gens. Donc c'est pourquoi, en général, de façon générale, les institutions ne viennent pas beaucoup là. Mais vous savez, je crois qu'une légitimité, ça se construit et ça se conquiert. Voilà. Et je crois que cette petite légitimité que je peux avoir en Tunisie, disons, je l'ai à la fois construite par mon travail et conquise par mes engagements.
C'est vraiment sans faire semblant, j'allais poser cette question, parce que moi j'ai interrogé autour de moi, j'avais une petite idée. Mais je me demandais autour de moi, aux intellectuels, ceux qui en lisent, quelle que soit leur carrière, Sophie Bissis, c'est qui pour vous? Ah oui, c'est l'historienne tunisienne. Bien sûr, ouais. Elle est légitime.
Tout travail scientifique est un travail qui demande du débat, et moi je suis toujours pour le débat. Et là, je suis très content que mon bouquin vient d'être traduit en arabe.
L'histoire de la Tunisie et le livre de Bourguiba, vous avez travaillé à partir de quelles archives?
Alors,
où est-ce que vous avez travaillé à partir d'archives?
Non, alors l'histoire de la Tunisie, non. Pourquoi? Parce que l'histoire de la Tunisie, je vous dis, c'est une histoire longue, sur 3 millénaires, et quand vous faites ce type de synthèse historique, vous n'allez pas aux archives. Parce que vous n'allez pas faire 3000 ans d'archives. Donc, en fait, ce sont les historiens d'une période, d'un thème, d'un sujet bien déterminé qui vont aux archives. Et donc, les synthèses comme celles que j'ai faites ne vont pas à la source première, vont aux sources secondaires. Et donc, j'ai travaillé avec tous les bouquins que j'ai pu lire sur l'histoire de la Tunisie. Mais je n'ai pas travaillé aux archives. En revanche, bien sûr, sur le Bourguiba, c'est quelque chose de tout à fait différent. Comme je vous le disais, quand on a commencé à travailler sur le Bourguiba, il y avait beaucoup de compagnons de Bourguiba qui étaient vivants. On a fait des dizaines d'interviews. D'autres, on avait consulté avant nous, les archives. Par exemple, ma mère, qui était historienne aussi, a beaucoup travaillé sur le Bourguiba, mais jusqu'à l'indépendance, pardon. Surtout, ma mère avait travaillé sur le Bourguiba des années 20 aux années 45. Donc on a utilisé évidemment ce type d'ouvrage, on a toute une biographie en fin d'ouvrage, mais on a travaillé beaucoup sur des documents premiers que nous ont fournis les gens, etc. Donc le travail sur le Bourguiba n'est pas du tout le même que le travail sur l'histoire de la Tunisie.
Alors, je ne parle pas de votre livre, mais l'histoire avec un grand H de la Tunisie, est-ce qu'elle est écrite? Est-ce qu'elle a été écrite? Qui a écrit?
Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses. Et la Tunisie a une bonne école historique. Il y a de bons historiens en Tunisie. Vous avez des antiquistes, vous avez des médiévistes, vous avez des ottomanistes, vous avez des spécialistes d'histoire contemporaine. Il ne faut pas oublier que l'histoire de la Tunisie est très... se déroule sur une période longue, et à toutes les périodes, vous avez de bons historiens, une bonne école historique en Tunisie, incontestablement. Et les historiens tunisiens, alors, ça dépend des périodes, si vous voulez, bon, évidemment, tout de suite après l'indépendance, c'était les historiens du mouvement national qui dominaient. Bon, l'histoire de la colonisation. Là, il y a un retour aux études ottomanistes qui est extrêmement intéressant, qui avait été un peu abandonné à l'époque bourguibienne. Il y a un excellent matériau historique en Tunisie pour travailler. Un bon matériau historique. Il n'y a pas que des Tunisiens qui ont travaillé. Il y a aussi des chercheurs français qui ont fait des travaux très intéressants. Enfin, français ou américains ou anglais sur la Tunisie, que ce soit la Tunisie romaine, par exemple. Bon, c'est vrai que les chercheurs américaines, d'ailleurs, antiquiste américaine qui a dirigé l'étude du corpus des mosaïques romaines en Tunisie, par exemple, qui est un corpus extrêmement riche. Donc, malheureusement, le commun des mortels tunisiens ne connaît de l'histoire tunisienne que l'histoire officielle, ce que j'appelais tout à l'heure le roman historique, le roman national. Et alors, il y a eu comme bouquin accessible dans les années 1960-70, il y a eu une histoire collective de la Tunisie en 4 volumes, qui est une histoire classique de la Tunisie, où il y a des choses tout à fait intéressantes. Donc cette fameuse histoire en 4 volumes qui a été éditée plusieurs fois, etc. Il y a eu quelques ouvrages synthétiques, comme l'histoire de la Tunisie de Mohamed Ali Chrif, bon, qui était sur l'époque husséinite, il est incontournable. Mohamed Ali Chrif, c'est lui qui a fait la biographie du fondateur de la dynastie. Il y a eu quelques ouvrages de synthèse, plus ou moins bons, plus ou moins... Et il y a beaucoup de recherches sur des périodes particulières. Mais il y a un matériau très riche sur l'histoire de la Tunisie.
Vous connaissez les archives nationales, j'imagine.
Oui. J'ai même donné toutes mes archives Bourguiba, je les ai données l'année dernière aux archives nationales. Et j'ai donné aussi les archives de ma mère aux archives nationales tunisiennes. Parce que je pense qu'à partir du moment où on ne travaille plus sur un sujet, et je sais que je ne veux pas réécrire une biographie de Bourguiba, ça y est, je l'ai écrite, j'ai écrit un million d'articles sur le personnage. Autant faire bénéficier les étudiants et les chercheurs de ce qu'on a. Donc moi, à mon âge, je suis en train de me défaire d'une partie de mes archives et de les donner à des bibliothèques publiques.
On ne juge pas des archives, on n'évalue même pas des archives nationales, mais est-ce que c'est un bon instrument? Est-ce que c'est déjà un bon instrument?
Bien sûr.
Pour les chercheurs.
Les archives nationales et la bibliothèque nationale en Tunisie sont très riches, ce qui est le reflet de la très longue histoire de la Tunisie. Voilà. Alors, c'est pas toujours très bien tenu. Enfin, la Bibliothèque nationale, sous le magistère de Rajab Eslem, avant, qui a été démissionné il y a quelques mois, a commencé à numériser, et les archives nationales sont en train de numériser aussi. Et c'est énorme. Je vous dis, le matériau historique est très riche en Tunisie. Très riche.
Et les études d'histoire se font positivement, je veux dire, il y a une école en termes de formation.
Là, maintenant, aujourd'hui, au jour où on se parle, on sait très bien que l'université tunisienne est, disons, en difficulté. L'université tunisienne ne va pas bien. Et que, d'après la vie générale, elle sort des diplômés qui sont des diplômés médiocres. Le tri se fait selon les gens. Il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui sont de bons historiens, de jeunes historiens en Tunisie qui sont tout à fait intéressants. Et il y a une masse de diplômés d'histoire. Bon, qui vont devenir des profs du secondaire dans lequel l'histoire est mal enseignée. Mais je ne peux pas vous donner un avis précis sur l'enseignement de l'histoire à l'université tunisienne parce que je ne le connais pas assez.
La Tunisie, c'est un pays africain?
Bien sûr. Pas seulement. Enfin, d'abord quand même, alors même si tout le monde le dit maintenant, c'est la Tunisie qui a donné son nom au continent. Bon, Africa, avant, le mot Africa concernait la Tunisie romaine. Bon, ensuite, les Arabes l'ont transformé en Ifriqiya, et ça viendrait donc d'une déesse locale et d'un petit peuple local qui s'appelait les Afri. La dimension africaine de la Tunisie a été occultée. Mais quand vous regardez la culture berbère, par exemple, je me souviens d'un choc esthétique que j'ai eu il y a quelques années, où j'étais chez un collectionneur qui a des objets berbères de quoi remplir 3 musées, surtout de la poterie.
En Tunisie.
Oui. Mais quand vous regardez les motifs de la poterie, des mergoums, des tapis, de tout ce que vous voudrez, des tatouages de femmes, quand les femmes se tatouaient, quand on était gosses, les femmes étaient tatouées, hein, les paysannes. Mais vous êtes beaucoup plus près de Niamey ou de Bamako que de Damas ou de Bardet, au point de vue artistique. Les Berbères sont des Africains. Bon. La Tunisie, d'un autre côté, a été le pays le plus arabisé du Maghreb, incontestablement. Et aujourd'hui, 95% des Tunisiens se considèrent comme des Arabes. Il ne faut pas non plus nier la réalité. D'autant que la Tunisie a été, comme le reste du monde arabe, un pays négrier, qui a pratiqué pendant 10 siècles la traite des esclaves. Et donc, il y a un mépris du noir qui est extrêmement important, un mépris traditionnel du noir. Ça se voit dans le vocabulaire. Hein. L'Abid, le Moussif, le Kahlouche, tout ce que vous voudrez. Bon. Le passé négrier de la Tunisie a amené une dévalorisation du Tunisien noir, qui est un reliquat de l'esclavage, bien évidemment. La Tunisie, ne l'oublions pas, a été un pays esclavagiste. Et d'ailleurs, moi, ça me fait rire, de façon un peu amère. L'histoire tunisienne se glorifie de l'abolition de l'esclavage, du décret d'abolition de l'esclavage de Ahmed Bey en 1846. Mais si l'esclavage a été aboli, c'est bien parce qu'il existait. Mais alors on parle de l'abolition de l'esclavage, mais on ne parle pas de l'esclavage. Ce qui est assez extraordinaire. Donc la Tunisie a voulu oublier sa dimension africaine. Et malheureusement, cet oubli est allé jusqu'aux récentes déclarations présidentielles qui m'ont consterné contre les subsahariens, qui sont une négation d'une des dimensions de la Tunisie, extrêmement importante. Et aujourd'hui, malheureusement, autant la Tunisienne avait une image extrêmement positive en Afrique subsaharienne pendant des décennies. Bourguiba, une des principales avenues de Dakar s'appelle l'avenue Bourguiba. Et l'image, quand on disait « je suis tunisienne », quand on était au sud, « ah, vous êtes tunisienne, c'est formidable », etc. Aujourd'hui, c'est une image profondément dégradée, profondément altérée. Les pogroms anti-noirs qu'il y a eu en Tunisie sont insupportables. Voilà. Et je crois que le travail aussi que nous devrions faire et que certains ont commencé à faire. Il y a une association en Tunisie qui s'appelle l'association Nous Tous, Colnatouensa, en fait, en arabe, qui travaille sur la préservation et la, si je puis employer ce terme, la revisibilisation du patrimoine des minorités en Tunisie. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. Et donc, il faut remettre au jour la dimension africaine de la Tunisie. C'est pas la seule, bien sûr, mais elle existe, elle est là. Bien sûr, la Tunisie est un pays. Ce qui n'empêche pas d'être aussi un pays arabe. Je dirais un pays arabisé. La Tunisie est anthropologiquement berbère et culturellement arabe.
Et vous vous sentez arabe ?
Ah, c'est une grande question. C'est une grande question. Dans deux de mes ouvrages, et dans mon dernier ouvrage, je me définis en tant que juif arabe. Voilà. Où je colle les deux mots. Je dis je suis une juive arabe. Parce que je crois que les juifs arabes existent. Voilà. Il ne faut pas oublier que avant l'émigration de masse, il y avait pratiquement 1 million de juifs dans le monde arabe à peu près. Hein. Bon. Maintenant, il reste à peu près 1500 juifs en Tunisie, quelque chose comme 3000 juifs au Maroc. C'est en quelques dizaines, voilà. Très peu en Syrie, plus du tout en Irak, plus du tout au Yémen, plus du tout. Alors que la judaïté a été une dimension historique très importante du monde arabe. Il y a évidemment une part d'arabité en moi.
D'accord.
Et c'est pourquoi je me définis comme juif arabe.
D'accord. Dernière question. Votre regard. Avec Sophie Bessis, la femme, la citoyenne tunisienne, la journaliste, l'académie, pour ne pas dire universitaire, parce que vous n'avez pas une carrière universitaire, sur la Tunisie post-révolution.
En 2011, nous avons eu des moments d'euphorie. On croyait que tout allait changer. Maintenant, si on fait le bilan de la décennie qui vient de s'écouler, de 2011 à aujourd'hui, il y a eu des acquis incontestables. Une démocratisation chaotique, malmenée, avec des erreurs, avec des fautes même. Mais quand personne ne vous a appris la démocratie, il ne faut pas oublier que depuis l'indépendance, la Tunisie avait vécu en dictature. On ne devient pas démocrate tout d'un coup, ça s'apprend. Et donc cet apprentissage, malgré tout, était en cours. Malgré, je vous dis, toutes les impasses, tous les dévoiements, toute la médiocrité insondable de la classe politique post-révolutionnaire. Aussi, il ne faut pas oublier cette responsabilité-là. Aujourd'hui, un coup d'arrêt a été donné à ce processus, incontestablement. Un coup d'arrêt qui n'est pas seulement tunisien. Nous sommes dans une période régionale et mondiale où il y a une paix des autocrates dans le monde arabe aujourd'hui. Regardez tous les régimes arabes, toutes les révolutions ont échoué. Bachar al-Assad, qui est quand même un boucher de son peuple, revient en grâce. Au Soudan, ce sont deux criminels de guerre qui se font la guerre sur le dos de la population. Dans l'ensemble de la région, l'Arabie Saoudite et les Émirats, deux régimes autocratiques, règnent maître et façonnent la géopolitique actuelle de la région. Donc la Tunisie s'inscrit dans un moment régressif de l'histoire, incontestablement. Maintenant, on peut élargir ce moment régressif de l'histoire au monde entier, pas seulement à la Tunisie, au monde arabe ou au Maghreb. Le Maghreb se porte mal aujourd'hui, incontestablement. Le Hirak algérien a été complètement éradiqué. Le régime marocain ne joue pas beaucoup mieux, avec d'autres méthodes, qui sont les méthodes traditionnelles du marzen marocain, mais dans le monde entier. Regardez partout l'émergence de leaders populistes, souvent fascistoïdes. On est, je crois, pour beaucoup de raisons qui sont parfaitement explicables, dans un moment de régression mondiale. Voilà. Et la Tunisie, bien, n'échappe pas à ce moment de régression. Et aujourd'hui, on est dans un épisode régressif de l'histoire de la Tunisie, me semble-t-il.
Toute dernière petite question, vous êtes sur un chantier d'écriture en ce moment ?
Non. Enfin, j'écris toujours des articles, je prépare des conférences, mais je ne suis pas sur un bouquin. Non. J'ai des idées, mais je n'ai pas de projet. Voilà.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va en arrêter là.
Merci.
Merci infiniment.